Scribens O, Scribens A.
Ce mois-ci, nous accueillons Sandrine Louise, entre autres slameuse, et à l'origine d'ateliers d'écriture atypiques, comme nous allons le découvrir. Un petit mot sur les virgules sonores. C'est aussi notre invitée qui en est la créatrice. Bonjour Sandrine Louise, merci de m'accorder cet entretien. Artiste pluridisciplinaire, tu me l'as dit tout à l'heure, et Sandrine Louise, c'est ton nom d'artiste.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, nous allons davantage nous consacrer à ces ateliers très spécifiques, très particuliers, qui ont attiré ma curiosité, qui sont le curieux ménage entre écriture et création de parfums. C'est assez étonnant comme mariage. D'où vient cette idée ?
Alors, cette idée, elle a pris naissance au travers de mon expérience dans le milieu du luxe et de la beauté, où je suis restée près de 17 ans, en fait. J'ai eu l'occasion d'intégrer des maisons prestigieuses, et ce qu'il faut savoir, c'est que le parfum, dans ce type de milieu, est vraiment très présent. J'ai pu travailler pour des maisons telles que Dior, en l'occurrence, où j'ai pu être formée aux différentes collections et où j'ai pu effectivement appréhender et la pensée du nez, directeur artistique, qui était notamment François de Machy quand j'y étais.
Alors, la pensée du nez, en d'autres termes, qu'est-ce que c'est ?
Ben écoutez, si on reprend les propos de François de Machy, par exemple, il disait la chose suivante: en créant, j'ai toujours en tête une femme, source d'inspiration inépuisable, avoue-t-il. Je l'imagine telle que je voudrais qu'elle soit, et lui invente une odeur qui la définisse comme telle. Je projette mes fantasmes, je fais mon cinéma. Par exemple, Annie Goutel, que j'aime beaucoup, ce sont de très très beaux parfums. Elle disait: la nature et ses merveilles me guident, mes émotions deviennent senteurs, j'ai nommé parfum le rêve qui me porte.
Il y a quelque chose de très cinématographique et de scénaristique finalement.
Oui, aussi. Aussi.
Du storytelling, on en a parlé tout à l'heure.
Tout à fait. Donc, on est sur une idée qui transcende le « ça sent bon », et c'est ce que je dis à mes participants. On est sur une idée qui va beaucoup plus loin que, oui, que l'odeur, et que et c'est intéressant et c'est très important pour moi d'aller plus loin, parce que en réalisant que finalement, le parfum, c'était pas juste une question d'odeur. Par exemple, ça m'a un peu dérangé de porter le fantasme de quelqu'un. Voilà. Ça m'a un peu dérangé de porter le rêve de quelqu'un, aussi beau soit-il. Donc, je me suis dit, j'ai envie de... Cette signature olfactive doit vraiment me ressembler, même si avec le pH de la peau, pour le coup, on est sur quelque chose de très personnel, mais finalement, dans ce que je veux véhiculer, qu'est-ce que je veux véhiculer ? Voilà.
Donc pour toi, le parfum, c'est quelque chose qu'on véhicule à destination des autres, mais aussi de soi-même.
De soi-même en premier, des autres inévitablement, puisque on est entouré de personnes, voilà, d'une façon directe ou indirecte.
Pour en revenir aux ateliers, tu disais tout à l'heure avoir vécu à Berlin, avoir vécu à Londres. Quand as-tu commencé à animer ce type d'atelier ?
Au tout début, je me focalisais vraiment sur la création de parfums. Et donc, on était plus en one-on-one, face à face. Et puis après, en arrivant à Marseille, j'ai réalisé qu'effectivement, en y pensant avec une peut-être d'une façon plus profonde, je me suis dit mais le parfum étant un moyen de communication, puisque et c'est, on en a parlé, la fonction première du parfum, c'était dans l'Antiquité, mais elle était réservée au temple, elle était réservée au culte de Dieu, d'accord, des dieux. Donc en fonction des civilisations, en fonction des endroits, et le parfum pour soi finalement a émergé avec Cléopâtre seulement. Mais avant ça, on est sur un moyen de communication. Et pour moi, le moyen de communication par excellence, et ça c'est pour moi, c'est l'écriture. Donc je voulais vraiment juxtaposer, associer finalement deux types de médiums de communication. Commencer par le médium au travers de l'odorat pour qu'il se pose sur le papier.
Mais tout ça passe par le sens du toucher, si on pense crayon et papier, et odorat, le sens olfactif, c'est un travail des sens. Il y a de marier parfum et écriture.
Tout à fait. Et c'est ce qui en fait un atelier assez complet pour le coup, parce qu'on travaille sur des sens différents.
Alors, comment arrivent les participants et comment en sortent-ils de ces ateliers ?
Alors, les participants, il y a beaucoup de curiosité. Hein. C'est ce qu'on disait, on est sur le dénominateur commun de la curiosité, parce que c'est assez atypique. Donc, qu'est-ce que c'est, finalement ? Comment ça se produit ? Donc, il y a pas mal de questions. Et puis après... pour la plupart, on est sur une expérience très plaisante. Parce que, encore une fois, et tu l'as dit très bien, on allie plusieurs sens, mais une introspection qui est nécessaire. Surtout si on doit véhiculer un message. Et c'est ce que je dis, moi, dans mes ateliers. Quel est le message que vous voulez porter ?
Donc, un atelier type se déroule de quelle façon ?
Les participants arrivent, on a un temps de collation, d'apéro, pour pouvoir se connaître. Un peu stratégique parce que c'est, comme il y a une restitution à la fin et que chacun partage une partie de lui-même, c'est important pour moi de créer une atmosphère de confiance, de bienveillance et de légèreté aussi. Donc un temps d'une demi-heure est nécessaire pour une prise de connaissance. Ensuite, on établit le parfum. Avant cela, on va avoir 5-10 minutes de présentation de l'atelier, d'histoire du parfum d'une façon succincte. Où on va parler effectivement de l'histoire, je vais insister sur le côté message, et puis on va parler brièvement de la pyramide olfactive pour savoir un petit peu comment ça se fonctionne. À la suite de cela, l'atelier va commencer. En tout cas, la création de parfum commence.
Alors, la pyramide olfactive, c'est
Note de fond, note de tête, note de cœur.
Je pense qu'il faudrait qu'on assiste à un de tes ateliers pour en savoir davantage, parce qu'on ne va pas avoir le temps d'expliquer en quoi consiste exactement ton atelier, mais attiser la curiosité des auditeurs. Tout de même, as-tu participé à d'autres ateliers d'écriture avant d'envisager ce type de proposition d'atelier d'écriture ?
Non. Moi, mon désir, vraiment, c'était de, entre guillemets, de faire conscientiser le parfum et son utilité. Voilà. C'était très important pour moi de faire comprendre que le parfum, c'est plus que ça sent bon. Ça, c'est un peu la mission que je me suis donnée, parce que le parfum est tellement important et c'est un élément qui est quand même au sein de beaucoup de familles. On a parlé aussi, hein, le parfum en tant qu'instrument de lignée. Dans certaines lignées, on va avoir la mère qui va porter le même parfum, la grand-mère qui va porter le même parfum, inévitablement la fille peut porter le même parfum. Donc... On voit que le parfum, c'est aussi un élément qui rassemble, qui fédère.
J'allais utiliser ce mot, le verbe fédérer, parce qu'on peut aussi se créer une famille et on peut avoir une bande quand on est ado, et cette bande va utiliser un même et unique parfum. C'est
tout
possible
à fait.
Aussi, ça.
C'est ce qui est arrivé, par exemple, pour moi. Le parfum de la vanille, à l'époque, c'était le parfum de la jeune fille hyper branchée. C'était le parfum de la vanille. Voilà.
Il n'est pas nécessaire d'avoir un nez pour participer à cet atelier. Tu disais, un parfum n'est pas nécessairement fait pour sentir bon. Néanmoins, tout de même, la fonction première dans la conscience collective, c'est on met du parfum à certaines occasions très particulières, pour fêter quelque chose, pour marquer le coup. C'est quelque chose qui appartient au cérémonial un petit peu, voilà, qui est le petit plus, comme on va mettre son plus beau bijou.
C'est un marqueur de temps, marqueur d'événement. Le parfum accompagne des actions, des plans. Par exemple, quand on va en date, on a un premier rendez-vous, on a envie de se mettre du parfum. Mais au bout du bout, pourquoi ? Ça va au-delà de « ça sent bon ». À certains égards, ça va être aussi un instrument qui va compléter un certain type de séduction. Donc c'est dans l'inconscient collectif, oui, je veux sentir bon, mais c'est aussi dans l'inconscient collectif, ça va beaucoup plus loin que ça. Sur certaines communications, on va jamais voir, en tout cas je suis en train de réfléchir, on va jamais voir une communication de grands couturiers, de grandes maisons qui vont dire achetez mon parfum, ça sent bon. Pas du tout, ça n'existe, ça, il faut, je n'ai jamais vu ça, et pourtant j'ai travaillé 17 ans à la mode. Ça va être, on va mettre en scène une situation, on va mettre en scène un message, on va par exemple opium, enfin tous ces grands longs guerlains, Chalimar, vous allez jamais entendre dire Chalimar parce que ça sent bon, pas du tout. Il y a toute une atmosphère, il y a tout un message parfois de séduction, tout un message d'authenticité, de côté espiègle peut-être pour Miss Dior, des choses comme ça. Donc là, c'est pas, ça va au-delà de l'odeur.
Il y a plus de temps passé à créer un parfum qui, je crois, est fabriqué à partir d'huiles essentielles. Parfum qui est donc amené à s'évaporer assez rapidement. Est-ce que les participants prennent note d'une certaine recette si le parfum leur convient et qu'ils ont envie de le reproduire chez eux ?
J'ai des participants, effectivement, qui notent. Pas tous, mais j'ai des participants qui notent, tout à fait.
Est-ce qu'il arrive qu'un participant souhaite créer un parfum malodorant ? Est-ce qu'il est arrivé ce genre de choses ?
Comme je le dis dans chaque introduction de mes ateliers, un parfum, c'est ni féminin ni masculin. Et le parfum, ça sent bon, n'existe pas. Et on en a discuté. Je vais pouvoir trouver un parfum merveilleux, et toi tu vas me dire mais non, mais c'est pas possible, ça je pourrais jamais porter ça. Donc c'est très subjectif, le ça sent bon ou ça sent pas bon. Alors bien évidemment, si c'est une odeur, des goûts, choses comme ça, on en sera tous d'accord, mais c'est rare. Enfin, je veux dire, il y a pas une huile essentielle ne peut pas produire ce type de résultat.
Est-ce qu'on peut envisager de créer un parfum pour se mettre dans une certaine situation, une certaine atmosphère, pour véhiculer certaines valeurs et ensuite se mettre à écrire, comme si ce parfum allait être le point de départ d'un récit, par exemple. Tu slams, je crois, on t'entendra tout à l'heure. Est-ce que tu as utilisé le parfum comme le point de départ pour écrire quelque chose ?
Je suis en train de réfléchir parce que parfois je fais dans les deux sens. Alors, moi, c'est vrai que avant que les participants commencent, je montre toujours un petit peu le résultat. C'est-à-dire que je crée un texte et je crée le parfum qui va avec. Donc on va avoir des petites touches que je vais distribuer aux participants. Ils vont sentir et ensuite je vais dire le texte. Et généralement, ils sont bluffés. Et ça permet aussi de voir le produit final de l'atelier. Donc parfois, j'ai des textes et je me dis, tiens, je vais créer le parfum en fonction du texte que je veux, que j'ai. Ou je crée le parfum et là, je me dis, qu'est-ce que tu veux dire ? Donc après, il va y avoir des mots qui sortent, il va y avoir des situations, des messages que je veux produire.
C'est toi, toute seule, face à ta page ou face à tes huiles essentielles. C'est pas lors d'atelier.
Non, c'est moi toute seule en premier. C'est moi toute seule en premier pour donner l'impulsion de l'atelier.
Quand on pense parfum, on pense sensualité, on pense raffinement. Est-ce que les textes produits par les participants sont de cet ordre ? Est-ce qu'il y a quelque chose de très subtil, des mots très précis qui sont écrits ?
Alors moi, les mots que j'utiliserais pour mon atelier, c'est vulnérabilité et authenticité. Donc, la subtilité, non. C'est pas ce qui va sortir. C'est pas en tout cas ce qui va ressortir le plus, voire même pas du tout, je dirais. On est sur une expérience où les émotions sont vraiment très présentes. Donc là, on va être sur le côté, je dirais, vérité.
Donc, on peut dire peut-être qu'il y a des points communs entre ces textes, ces notions de vérité, d'authenticité, de libération aussi peut-être.
Tout à fait.
Tu parlais d'une participante qui avait reproduit le parfum de la madeleine de sa grand-mère comme la madeleine de Proust. C'est quand même assez incroyable. C'est un exemple frappant parmi tant d'autres. C'est un exemple exceptionnel où ce genre de cas se produit assez souvent.
C'est un exemple pour moi exceptionnel. Pourquoi ? Parce que je trouve que sans se rendre compte, reproduire une odeur de l'enfance à ce point, ça prouve aussi que le parfum, et puis on l'a dit, hein, c'est un marqueur de temps, et c'est une partie intégrante du souvenir. Voilà, et c'est ce que j'aime dans le parfum, en fait.
Est-ce que justement, on peut, comme une écriture évolue dans le temps, l'adhésion, je ne sais pas si le mot est très juste, l'adhésion à un parfum évolue dans le temps aussi. On va préférer tel parfum à un moment de sa vie et son style va évoluer parallèlement.
Tout à fait. Moi, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Comme je l'ai mentionné là, quand on parlait, j'ai toujours été, ce sera toujours un peu le dénominateur commun, avec les notes telles que la cannelle, le benjoin, l'encens. Ça, pour moi, c'était, ou peut-être c'est toujours, un peu mes repères au niveau de la parfumerie. Maintenant, je suis plus sur les côtés poudrés, plus sucrés, poudrés, parce que peut-être un désir d'exprimer une nouvelle facette de ma féminité. Donc on sera sur quelque chose de peut-être moins lourd, plus aérien, voilà.
Y a-t-il des thèmes de travail proposés lors de ces ateliers ? Travaillez-vous la poésie, les nouvelles, le slam, le roman ? Y a-t-il des formes suggérées, imposées, des consignes ?
Non, je ne souhaite pas ça, parce que c'est vrai que sur l'atelier, on est vraiment sur un peu l'ADN de la liberté. Alors une fois, plusieurs fois d'ailleurs, j'ai incorporé des supports. Alors, je suis aussi artiste plasticienne. Je travaille beaucoup sur de l'art abstrait ou de la photographie d'art. J'ai effectivement, sur une œuvre que j'avais faite, l'exercice était de créer le parfum que l'œuvre inspirait et le texte qui allait avec, en regardant cette toile. Ça a été fait. Aussi sur des... Parce que je fais de la photographie un petit peu. Les photographies, qu'est-ce que ça inspirait ? C'était très sympa d'ailleurs.
L'écriture est vraiment l'extraction du parfum créé.
L'écriture est l'extraction du parfum créé. Et en fait, alors je vais être plus précise dans ce que je dis, la thématique, c'est comment interpréter l'œuvre que je vois au travers d'une signature olfactive et au travers du texte. D'accord ? Puisque de toute façon, l'art, à proprement parler, c'est une forme de message. Donc, quand tu regardes mon œuvre artistique ou une œuvre photographique que j'ai faite, qu'est-ce que ça inspire chez toi ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Et aujourd'hui, comment tu transposes ça au niveau de l'odorat ? Comment tu transposes ça au niveau de l'écriture ? Voilà.
Depuis quand écris-tu ? Est-ce que la création de parfums a généré l'écriture ? Est-ce que l'écriture a généré la création de parfums ? Comment l'alchimie s'est faite ?
J'ai créé les parfums, ça fait 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans, que je crée mes propres parfums et que je partage un petit peu cette expertise. Voilà, d'une façon très simple, hein, parce que je ne suis pas née, c'est vraiment une passion, une de mes passions. Donc, la création de parfums est venue avant. L'écriture, elle est venue il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quand j'ai intégré une troupe de théâtre. Voilà. Le directeur artistique m'a dit, écoute Sandrine, je sais que tu chantes, écris-moi une chanson. Voilà. C'est dans le cadre d'une pièce de théâtre qu'on est en train de faire depuis plus de 2 ans maintenant, qui s'appelle La fin de l'amour. La fin de l'amour.
La fin F-A-I-M ou F-I-N ?
F-I-N. La fin de l'amour, au départ, on s'est appuyé sur le livre d'Eva Elouz. Et donc, l'idée, c'était vraiment de créer une pièce au travers de l'amour. Et puis, la façon dont ça a évolué, notamment au travers de ce nouveau siècle, on va dire, où les relations amoureuses sont devenues si compliquées. Et donc, au travers de cette pièce de théâtre qui est en train de se faire, le directeur artistique, Michel André, me demande, bon, Sandrine, écris-moi une chanson. Je me dis, mais non, mais moi, j'ai jamais fait ça. Je chante du gospel depuis 2007, mais je sais pas faire ça. Alors je me suis dit, bon, on y va, allez, ça va forcément sortir quelque part. Et je me suis plus à l'aise avec le slam. L'idée de chanter comme je pourrais chanter une louange me dérangeait peut-être. J'étais pas forcément en confiance avec ça. Et je me suis dit, le slam me correspond plus, et notamment par rapport au sujet abordé. Et ça me permet plus facilement de décrier des faits de société, des choses qui me dérangent, entre guillemets, des coups de gueule, je dirais. Voilà.
Mais on rejoint un petit peu cette notion de message du parfum. C'est-à-dire que le parfum véhicule des messages, comme le slam. J'ai voilà un parallèle.
Et l'association s'est créée comme ça, en fait. Parce que effectivement, moi, j'étais dans ce parfum vecteur d'un message. Et le slam vecteur d'un message, elle me dit, mais pourquoi pas lier les deux et de voir un petit peu ce que ça donne.
Et pourtant, tu ne donnes aucune consigne à tes participants qui serait d'écrire un slam à l'issue de la fabrication du parfum.
Non, parce que je trouve que quand on ne connaît pas et quand on ne sait pas, ça peut être un exercice impressionnant et un exercice qui peut faire des blocages, et ce n'est pas le but. Le but, c'est le côté ludique. Le but, c'est de réfléchir à ce que je veux dire, et peu importe la forme que ça prend.
Et depuis quand animes-tu ces ateliers ? Ça va faire...
Là, ça va faire 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, depuis que je suis sur Marseille, en fait.
Voilà. Et comment ça a évolué, petit à petit ? Enfin, je veux dire, au fil de temps, tu as remarqué une évolution. Toi-même, as-tu évolué par rapport à ces ateliers pour mener au mieux les participants vers la création du parfum idéal, si tant est qu'il y ait un parfum idéal. Comment as-tu procédé ?
Le parfum, il évolue, l'atelier, pardon, il évolue avec moi-même. Il évolue avec moi. Plus je gagne en liberté, et plus cette liberté peut être véhiculée. Voilà. Si tu veux, pour moi, mes ateliers, c'est vraiment des ateliers où un peu de retraite, où on fait une pause. Et ça, je le dis. C'est un atelier où on prend le temps, on reprend le temps d'une introspection. Je ne veux pas d'injonction et je ne veux pas de jugement. Voilà, ça, c'est vraiment la clé. C'est pour ça que je laisse la forme et l'expression assez libre. Et ça, c'est hyper important pour moi. Parce que la restitution, et en fonction de qui on est, elle peut prendre plusieurs formes. Et je ne souhaite pas imposer une forme.
Et qu'est-ce que le participant va emporter avec lui? Qu'est-ce qui va être le plus précieux? Le texte qu'il aura produit? Le parfum qu'il aura produit, les deux?
J'irai en premier temps le parfum, parce que la plupart n'ont jamais créé de parfum. Donc c'est assez, c'est une expérience pour eux un peu très nouvelle. Et puis le texte, après. Mais je dirais plus le parfum, réellement. Voilà.
Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'ateliers d'écriture classiques?
Tout à fait, oui.
Et ont-ils un profil particulier? Écrivent-ils d'une certaine façon?
Ah, bah moi j'ai eu des scénaristes, en particulier un. Il m'a fait un petit scénario à partir de son parfum. Je trouve ça extraordinaire. Après, c'est vrai qu'en termes d'expression, on est sur des choses plus poussées. Mais en dénominateur commun, je dirais, même les novices arrivent à me sortir des choses très abouties. Et je suis assez surprise, et elles le sont aussi. Il y a des personnes, alors moi je le dis, hein, je suis pas fait de lettres, choses comme ça, donc vous attendez pas à la performance, on n'est pas là pour ça. Et j'aime que tout le monde soit au même niveau. Peu importe, finalement, s'il y a un niveau beaucoup plus élevé de lettres ou quoi. On n'est pas ici pour, entre guillemets, bah c'est pas entre guillemets, se comparer. Et ce qu'on produit, c'est un produit de notre âme, de nos tripes. Donc, si aujourd'hui on a quelqu'un de très littéraire, il va me faire quelque chose d'extraordinaire, mais je ne vais pas le comparer, je ne vais pas l'évaluer en fonction de ses capacités. Et ça, pour moi, c'est très important de le dire. Vous êtes, il n'y a pas d'évaluation, premièrement. Et deuxièmement, sortez-moi quelque chose de vos tripes. Sortez-moi quelque chose d'unique, d'authentique et qui lié à votre personnalité. C'est ce que je veux, moi, là.
Que ce soit au niveau de la création du parfum, ouais, ou du texte.
Ou du texte, c'est pareil.
Et est-ce que les parfums créés circulent entre les participants? Et donnent-ils leur avis, leur opinion, leur peut-être avis et opinion ne sont pas les bons termes, mais leur ressenti par rapport au parfum créé par tel autre participant? Est-ce que ça tourne?
Tout à fait. À la fin, il y a une restitution. C'est-à-dire qu'une restitution au niveau du parfum, une restitution au niveau du texte. Donc, on va faire, au travers de touches, on va faire tourner le parfum. Chacun va sentir et ensuite le participant va dire son texte. Donc moi j'invite toujours aussi un peu les participants à fermer les yeux et à écouter le texte. Et à chaque fois on a dit waouh, ça m'a fait vraiment voyager, c'était vraiment ça. L'expérience finalement olfactive en plus du texte, on entre dans l'univers de l'autre inévitablement, d'une façon différente. Ouais.
Parler de support tout, oui, à l'heure, qui pouvait être un moyen supplémentaire de faire émerger l'imagination des participants. Mm-hmm. C'est un vecteur supplémentaire. C'est si par exemple la personne peine à créer ou si tu décides, ben aujourd'hui ça va être, je propose en support, outre les différentes senteurs, les différentes huiles essentielles, je propose ce visuel.
Tout à fait. Quand je décide de proposer une de mes œuvres pour, on va dire comme canal d'inspiration, pour moi, on est sur trois médiums de communication. Particulièrement quand je propose une œuvre d'art abstrait. Parce que l'art abstrait, il y a plein d'interprétations possibles. Et quand je dis aux participants, bah, vous regardez cette œuvre et qu'est-ce que ça inspire en vous ? Qu'est-ce que ça génère ? Est-ce que ça génère, essayer de le retranscrire avec une signature olfactive. Une fois que cette signature olfactive est créée, retranscrivez au travers de l'écriture.
C'est rigolo parce que tu utilises des mots qui sont propres à l'écriture pour parler de parfum. Mmh. Tu parles de signature olfactive, tu parles de retranscription olfactive. Là, il y a une question qui me traverse l'esprit. Est-ce que tu as déjà entendu parler de d'autres types d'ateliers du même style ?
Il me semble que oui, mais on est très peu à faire ça. Il me semble que oui, mais on est très peu.
Toi, c'était venu de façon très intuitive, sans avoir d'autres exemples à l'appui. Tu t'es dit, qu'est-ce qui a généré ça, cette idée de mariage outre ton parcours? C'est à partir du moment où ce prof de théâtre t'a commandé une chanson que tu t'es dit il y a ce lien à faire, ce mariage à faire entre écriture et parfum?
Moi, je suis toujours en recherche d'authenticité, de vérité. Et si tu veux, quand je me balade au sein d'un magasin tel que Sephora, des choses comme ça, moi j'aime trop parce qu'il y a des parfums partout. Et surtout par rapport à l'image de la femme, j'aspire à une vision de la femme beaucoup plus authentique. Tu vois ? Et je suis fatiguée un peu de cette femme remplie de séduction. Et forcément, inévitablement, là, le parfum. Et je me dis, ayez conscience. Prenez conscience de ce que vous faites. Voilà. Parce que je trouve que la société, voilà, la société, c'est beau, mais aussi la société, ben, ça. On peut aisément laisser l'authenticité au profit de la communauté, en fait. Et à chaque fois, et au travers du parfum notamment, parce que moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, Lolita Lempicka, tout le monde le portait, Angel, tout le monde le portait. Là finalement, le parfum devient plus personnel, là ça devient un effet de mode, et alors que le parfum finalement c'est quelque chose de tellement personnel. Voilà.
Donc toi en fait finalement, c'est presque quelque chose de l'ordre de la psychanalyse, ce que tu proposes, d'un retour aux sources, au plus près de son authenticité, au plus près de soi-même, cette activité de création de parfum et d'écriture.
Alors, au plus près de soi-même. J'aurais pu l'appeler comme ça, l'atelier, au plus près de soi-même.
Et d'ailleurs, quel nom porte-t-il, ce pas ?
Atelier d'écriture olfactive. Voilà, c'est vraiment ça. Au travers de ce vecteur, on a un moment de pause et de se dire où j'en suis.
Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de lire pour écrire ?
Non.
Donc on ne peut pas dire que tu es des mentors particuliers, parce que là, j'avais envie que tu nous lises quelques textes et je me disais que tu avais peut-être des inspirations. Tu disais que tu chantais du gospel. Ton slam est marqué par le gospel, est marqué par d'autres chants artistiques.
Mon slam a une essence, l'essence de ma foi, complètement. Et pour aussi décrier un peu ce qui me révolte un peu dans la société.
Alors, l'essence de ta foi, en plus, essence, alors, essence, parfum, essence, sens, qu'est-ce que c'est l'essence de ta foi?
Ce que je crois, parce que je suis quelqu'un de très spirituel, donc ma foi, la relation avec mon Dieu, mes valeurs sont inhérents déjà, sont centrales à ma vie, dans tous les départements de ma vie. Et inévitablement, l'artiste que je suis, ben, les œuvres que je vais produire vont être un fruit de cette foi. D'accord ? Même les ateliers d'écriture, pour le coup. Hein. Donc oui, c'est un peu la tête, on va dire, entre guillemets, la tête de la pieuvre, ça va être ma foi. Et puis après, les tentacules, ça va être...
Ça va être des expressions artistiques,
tout à fait.
Alors, ben, je vais t'écouter et dire quelques slams. Peut-être vas-tu même chanter.
On va voir. Ben là, j'ai les textes. Après, est-ce que je commence ?
Je t'en prie.
C'est un texte qui s'appelle « Au gré du vent ». Il y a eu le siècle des Lumières et maintenant il y a le siècle de la folie. Dans ce siècle, avoir un partenaire et acheter un vêtement ont une chose en commun. On les change au gré du vent, au gré de nos envies. Telle une paire de jeans ou un beau manteau, l'autre est là pour la valorisation de sa propre identité. Dans ce siècle, on désire, mais on ne sait plus quoi désirer. Tout est devenu si accessible, les relations sont comme aller faire des courses. On achète tout en ayant en tête la loi des 14 jours de rétractation si cela ne convient pas. Eh bien, de nos jours, l'amour, c'est un peu ça. L'autre vient dans notre vie et hop, aussitôt reparti. En effet, disparaître est devenu une norme. Plus d'explications, c'est le nouveau parti pris. Peu importe la relation, en un instant, elle devient objet d'abandon, laissant l'autre avec une nouvelle identité, celle d'un avorton, d'un rejeton. Alors que l'amour est censé impliquer le don de soi, on l'a mis au service de notre appétit, d'un moi surdimensionné, jamais rassasié. Il y a eu le siècle des Lumières et maintenant, il y a le siècle de la folie.
Il est quoi pour toi ce texte-là ?
Ben, c'est un petit peu pour décrire un peu les relations amoureuses en fait. Et c'est vrai que moi quand j'ai lu le livre d'Eva Elouz, j'étais un peu horrifiée. J'aime beaucoup son livre. Hein. Parce qu'il dépeint une réalité peu glorieuse, très sincèrement, de ce que l'être humain est devenu, l'homme et la femme sont devenus. Alors qu'on était censé être en partenariat, une équipe, une team, pour améliorer la condition humaine, parce que moi je crois réellement qu'être en couple, c'est pas juste être avec quelqu'un, payer ses factures, avoir des relations sexuelles. C'est créer, c'est laisser une marque, une empreinte, ici-bas, pour les générations futures. Voilà. Donc c'est quand même un partenariat avec une vraie vision, finalement. Et je trouve que en se focalisant sur le moi, mais mon plaisir, moi,
mon individualisme,
mon monde, on n'est plus patient avec l'autre, on n'a plus envie de l'autre, finalement.
On consomme l'autre,
voilà. D'ailleurs, c'est ce que dit Eva Elouz dans son livre. Et le couple. L'homme et la femme sont rentrés dans un schéma de consommation qui ne peut mener qu'à la ruine si on ne s'arrête pas.
Donc le retour à l'authenticité, finalement, je crois que c'est ce qui te caractérise aussi bien au travers des ateliers d'écriture olfactive qu'au travers de ton écriture à toi.
Ouais, personnelle, tout à fait.
Et qui rejoint ta spiritualité.
Et qui rejoint cette spiritualité, effectivement.
Est-ce que tu aurais un autre texte à nous lire ?
Oui, je vais lire le premier. Alors, je vais lire le texte qui a le premier texte que j'ai fait quand le directeur de théâtre m'a dit finalement qui est un peu la genèse de ces ateliers d'écriture qui s'appelle Mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé. Mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé. Quand je pratique l'exercice de savoir qui tu es pour moi alors que tu n'es pas encore là, je tente d'imaginer toutes ces années gardées, mises de côté, pour avoir une chance de vivre ce que j'ai toujours rêvé. Mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé. Et rêver fait peur. Peur de tomber dans le cliché Walt Disney. Illusoire et fébrile, ce cliché qui ne sert à rien. Illusoire et stérile, alors je me retiens. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à mon bien-aimé. Ces mots résonnent comme une prière, la prière d'un cœur sincère qui souhaite aimer comme il n'a jamais aimé. Être avec toi, non pas par envie, pitié ou dépit, mais parce que je t'aurais choisi comme tu m'auras choisi, non pas pour être l'homme que je veux que tu sois, non pas pour être une femme que je ne suis pas. Et puis je me dis, est-ce que c'est possible tout ça? Après tout, pourquoi pas? N'est-il pas écrit que toutes choses sont possibles à celui qui croit, que la foi est la manifestation des choses qu'on ne voit pas? Alors je crois. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à mon bien-aimé.
Merci. Alors je vois qu'effectivement, la question amoureuse est au cœur de tes préoccupations, ou bien est-ce un hasard que le choix de ces deux slams?
La question amoureuse est au cœur de mes préoccupations parce qu'au travers d'un couple naissent une nation, au travers d'un couple naissent une famille. Donc pour moi, le couple, c'est quand même le fondement entre voilà, d'une nation, finalement. C'est la somme de couples, c'est la somme de rencontres, la somme d'un mariage, d'une union qui vont créer une nation. Donc je souhaiterais que l'on prenne ça vraiment au sérieux.
Est-ce que le troisième texte que tu vas nous dire est aussi d'ordre amoureux?
Alors non. Non, ça là, ça va être plus. Alors j'ai l'enfance auquel je pense et je suis moi.
Oui, je suis moi, c'est pas mal, ça me tente bien. D'accord. Parce que l'authenticité, on en a beaucoup parlé, ouais. Ce serait bien pour conclure.
Je suis moi. Est-ce que je peux être moi? Sans artifice, je ne veux pas être complice d'un tel mensonge. Ce manque d'authenticité, vulnérabilité me ronge. Est-ce que je peux être moi? Sans être politiquement correct, puis-je avoir la permission d'être direct, sans passer pour une rebelle écervelée ou pour celle qui ne sait pas aimer? Jusqu'à quand pensez-vous que je continuerai à être celle que vous voulez que je sois? Jusqu'à quand pensez-vous que je me soumettrai à vos lois? Lois de perfection, de séduction, manipulation? Même ce que vous appelez liberté a été biaisé. Vous savez quoi? Je vais prendre ce droit. Droit d'aimer au risque d'être ghosté, de pleurer au risque de paraître faible, de rien voter au risque d'être traité d'illuminé. Je vais prendre ce droit d'être moi.
Merci. Être soi, je crois que c'est le message qui a été le fil de cette émission, coller le plus à soi, à son authenticité, sans forcément oublier l'autre. Voilà. Et l'écriture, finalement, est l'aboutissement de cette démarche authentique. Ouais, on termine notre discussion, on va peut-être s'arrêter là, mais... On va s'arrêter là. Sinon, on n'a pas fini. Je te réinviterai à l'occasion. On aura une deuxième
Avec
partie.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.
Combien de temps ton voyage durera-t-il? Le temps de me trouver, le temps qu'il faudra pour m'aimer. Pour m'aimer. J'ai besoin de plus que ce que le confort peut m'apporter. Je suis fatiguée de cette prison dorée où sécurité rime avec captivité, où ce pourquoi j'ai été créée est annihilé. Combien de temps ton voyage durera-t-il? Afin de découvrir ces facettes de moi méconnues. Laisse-moi le temps de me rapprocher de mon Créateur. Lui seul sera capable de me dire là où je fais erreur. N'est-il pas écrit « Ne sois pas sage à tes propres yeux » ? Je suis fatiguée d'être mon propre Dieu. Combien de temps ton voyage durera-t-il ? Cet amour tant recherché, quand les blessures de mon âme seront refermées. Le temps d'embrasser ma véritable identité. C'est à ce moment-là seulement que je reviendrai. Combien de temps ton voyage durera-t-il? Le temps de me trouver. Combien de temps ton voyage durera-t-il?
Il nous fallait déchiffrer le langage du parfum, selon Sandrine Louise, et peut-être avons-nous juste frôlé le point de jonction entre l'écriture et les délices olfactifs. N'hésitez pas à m'écrire à pestel, pestel.m, comme Marie, @gmail.com, si vous souhaitez que nous approfondissions cette question. Par ailleurs, Sandrine Louise, pour les plus curieux d'entre vous, a fait souvent référence à Eva Illouz, autrice de La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain que je vais m'empresser de parcourir. Enfin, notre invitée a évoqué François de Machy, grand nom de la parfumerie française et élevé à Grasse, avec à son actif 30 ans chez Chanel pour ensuite rejoindre la Maison Dior. Un documentaire lui a été consacré, intitulé « Nose ». Voilà, pour compléter cette émission, avant de vous dire à bientôt, en remerciant Radio Galère.